Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. J'aimerais tout d'abord lire avec vous un passage dans le livre du prophète Ésaïe. On va lire le début de ce chapitre 43, chapitre 43 du prophète Ésaïe. Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Amen. On va s'arrêter là. Avec ce texte d'introduction, j'aimerais ce matin parler des temps de transition que nous pouvons connaître les uns et les autres. Il est vrai que dans un premier contexte, cette prophétie concerne Israël, et au travers de l'exemple d'Israël, de son histoire, de son pèlerinage, de ses différentes traversées, car il en a connu diverses, ce peuple est pour nous un exemple aussi par rapport à notre foi personnelle. Ce peuple a connu différents moments de transition qui sont comparables à des traversées. Ils ont traversé la mer Rouge. Ce fut un temps de transition qui a été très court. Ils ont traversé le désert. Ce fut aussi un temps de transition qui devait initialement durer juste quelques jours, mais qui a duré finalement 40 ans à cause de leur désobéissance. Et ce temps de transition va aboutir sur une installation en territoire de Canaan, et puis ils auront dans leur histoire d'autres temps de transition, de traversée, plus ou moins difficiles. Et ces temps de traversée sont souvent très délicates et périlleuses, où nous avons l'impression de traverser des eaux, où nous avons l'impression de traverser des fleuves, où nous avons l'impression de marcher dans le feu, tellement ces périodes de temps sont intenses, sont décisives et peuvent être très éprouvantes. Cela fait partie de notre histoire, cela fait partie de notre histoire personnelle dans notre marche avec Dieu depuis le jour où nous avons dit un grand oui à notre Seigneur dans la foi. Eh bien, nous suivons notre Seigneur Jésus qui peut nous faire passer, et nous verrons quelques exemples, par ces temps de transition qui sont plus ou moins courtes, mais en général, on ne doit pas s'éterniser dans ces moments-là, car ce sont des moments de courte durée ou de moyenne durée. Ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques mois. Pour Noé, cela a duré environ un an entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. Il a été dans cette période d'entre-deux, dans cette transition dans l'arche, pendant un an de la vie de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, dans cette arche pendant un an? On ne sait pas trop, la Bible ne donne pas trop de détails ou quasiment rien sur ce qu'ils ont vécu pendant cette année. Eh bien, qui a été pour eux importante avant d'entrer et de s'installer dans le Nouveau Monde après le déluge? Ces temps sont des périodes de réflexion, sont des périodes où nous avons besoin de nous positionner dans la foi. Ce sont des temps ou des périodes de restauration, on prendra peut-être un exemple tout à l'heure, des périodes où Dieu se révèle d'une manière particulière, ou des périodes aussi qui sont révélatrices quant à la profondeur de notre cœur et de notre foi, pour savoir où nous en sommes dans la foi, des périodes de bilan pour nous, pour notre famille, pour notre engagement dans la foi, pour notre service pour Dieu, pour l'Église. Enfin, ce sont des périodes décisives pour chacun d'entre nous, et nous ne voulons pas, eh bien, rater ces moments-là, sachant que ces moments-là, ils sont précieux. Comme c'est ce passage, on y reviendra tout à l'heure, où il y a cette traversée des eaux, des fleuves et du feu, mais cette invitation à la confiance en Dieu, car dans ces moments-là, et c'est une chose certaine, c'est que Dieu reste avec nous. Amen. J'aimerais commencer par un exemple que nous allons trouver dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Marc, chapitre 4 et à partir du verset 35. On va lire juste ce verset 35, on connaît bien cette histoire et je la resituerai tout à l'heure. Il est écrit ici, ce même jour. Sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ils vont connaître une période courte de transition qui va être vraiment intense. Jésus leur demande de passer à l'autre bord. Ils vont passer d'un rivage à un autre rivage où il va se passer autre chose dans le ministère de Jésus dont ils vont être les témoins. Ici, replaçons dans ce contexte, il y a une grande foule auprès de Jésus. Les apôtres, les disciples sont avec Jésus, témoins de cette foule qui est là, qui a soif d'entendre les paroles du Seigneur, qui sont là et qui ne décrochent pas tellement. Ils sont attentifs, captivés par les paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils auraient pu rester dans ce lieu. Ils auraient pu rester là. Peut-être c'est ce que pensaient les apôtres et les disciples qui étaient là. Ici, eh bien, il y a la foule, il faut qu'on reste là. Sauf que Jésus a un autre plan. Sauf que Jésus sait que de l'autre côté du rivage, et c'est le chapitre 5 qui nous le dit, il y a un homme qui vit un tourment depuis des années chez le fameux possédé de Gadara, qui vit dans les sépulcres, dans les montagnes, qui se meurtrit avec des pierres, qui est là, qui hurle. Cet homme vit un enfer et Jésus va aller délivrer cet homme. Mais pour aller délivrer cet homme, il faut traverser la mer. Et Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Cela aurait pu attendre le lendemain matin. Pourquoi sur le soir? Traverser la mer le soir. Quand même, Jésus, ne pouvons-nous pas attendre le petit matin, il fera jour, ça sera plus tranquille. On va voir où on va. Mais là, c'est la nuit, c'est le soir, et nous allons nous retrouver à traverser la mer, le soir, on y voit bien moins la nuit, puisque le temps de traverser, il fera nuit. Peut-être y a-t-il un clair de lune, cela nous permet quand même d'y voir un petit peu, mais ça, on ne le sait pas. Et en tout cas, eh bien, Jésus leur dit, sur le soir, passons de l'autre bord. Sauf que, dans ce moment de transition qui va durer quelques heures, que va-t-il se passer? Une tempête terrible. Une tempête si terrible va fondre sur cette mer où ils sont. En plus, ce sont des barques. Imaginez-vous, il n'y a rien qui protège dans une barque. Des embarcations, voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les paquebots que nous pouvons connaître aujourd'hui qui sont capables d'affronter des tempêtes. Là, Ce sont des barques, du bois, c'est pas très haut. La moindre vague, eh bien, va rentrer dans la barque. Le vent souffle, la pluie est là, et les disciples sont complètement paniqués. Et Jésus, il dort. Jésus, il dort. Je ne sais pas, mais pour dormir dans une tempête, c'est quand même difficile, surtout dans une barque, où il n'y a rien qui protège. La pluie mouille, les vagues, les embruns, le vent qui hurle, tout est là. Et les disciples sont complètement paniqués. On voit ici que ce moment de transition est vraiment intense pour les disciples. Il y a eu d'autres moments de transition où les disciples ont traversé aussi des mers. À un moment donné, même Jésus n'est pas dans la barque et les disciples pensent périr, sauf que Jésus, eh bien, va venir à leur rencontre en marchant sur l'eau. En fin de compte, tout cela est pour les disciples éducateurs pour leur foi. Au travers de cela, ils vivent des expériences déterminantes parce que un jour, après l'ascension, Jésus ne sera plus avec eux physiquement. Ils vont devoir apprendre à marcher, à aller de l'avant sans la présence physique du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons des périodes difficiles parfois dans notre vie, et ce peut être le cas aussi de l'Église. Nous vivons des périodes de transition qui sont souvent très intenses et très difficiles à vivre. Et pour autant, il y a là une direction de Dieu précise, puisque c'est quand même Jésus qui, sur le soir, leur a dit « passons à l'autre bord ». La direction de Dieu, elle est claire, elle est précise. D'ailleurs, à l'autre bord, ils ne vont pas rester très longtemps non plus. Et là, on est sûr d'être dans la volonté de Dieu. Mais on peut être dans la volonté de Dieu tout en étant vraiment secoué de tous les côtés. Et dans ces moments-là où une vague en suit une autre, où tous les éléments de notre vie se déchaînent, où certaines choses nous arrivent en pleine face et nous ne savons plus que faire, on pourrait remettre en doute la volonté de Dieu pour notre vie. Mais il y a une chose certaine, c'est que c'est le Seigneur qui nous a dit de passer à l'autre bord. Et ces moments de transition sont des moments d'expérience avec Dieu. Ce sont souvent des périodes déterminantes où nous vivons nos plus marquantes expériences avec Dieu qui vont nous être nécessaires pour l'avancement de notre foi pour plus tard. Mais j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons décidé de le suivre, quoi qu'il en coûte. Nous avons décidé de suivre Jésus, même dans les tempêtes. Tu es toujours partant, Florent, hein? Et oui, à partir du moment où nous avons dit oui à Jésus, nous acceptons même qu'il nous fasse traverser une mer déchaînée. Nous avons accepté cela, nous savons que suivre Jésus, on connaît des moments tranquilles, oui, mais ce n'est pas de tout repos. Un jour, un disciple dira à Jésus, mais je te suivrai partout où tu iras. Ah oui, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Tu veux toujours me suivre? Ce sont des moments où nous apprenons vraiment à nous appuyer uniquement sur notre Seigneur Jésus en lui faisant confiance, car c'est lui qui a dit de passer à l'autre bord. J'aimerais prendre un autre exemple, c'est celui de Jacob. On a lu tout à l'heure un passage qui concernait Jacob, mais j'aimerais avec vous aller dans la Genèse, au chapitre 32, on va lire juste quelques bribes de passage, au verset 6 Jacob va à envoyer des messagers vers son frère, et les messagers vont faire un rapport à Jacob qui va le terroriser. Verset 6. « Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Nous allons maintenant au verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ce qui lui appartenait. Lisons bien ce verset 24, on va s'arrêter dessus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de large. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce qui est écrit au verset 24, Jacob demeura seul. Jacob est dans une phase de transition, un entre-deux déterminant. Il vient de s'enfuir, il y a quelques jours en arrière, il vient de s'enfuir de chez Laban, son beau-père. Laban l'a rattrapé avec des hommes. Heureusement que l'Éternel a retenu la main de Laban pour que Laban ne fasse pas de mal à Jacob. L'Éternel a protégé Jacob et ils ont fait une alliance entre Laban et Jacob. Jacob va retourner en territoire de Canaan. Après sa fuite de chez Laban, il va s'y installer. Donc il est là en entre-deux, dans une phase de transition. Jacob ne peut pas retourner en arrière, car ce serait retourner avec Laban, c'est impossible, c'est infaisable. L'affaire est réglée avec Laban, ils ont fait une alliance. Mais devant lui, il y a son frère Ésaü. Ça le ramène bien des années auparavant. Une affaire qui n'a jamais été réglée. Un problème, un conflit entre Ésaü et Jacob. Et Jacob qui avait été obligé de fuir des années auparavant, qui n'avait jamais réglé ce conflit entre lui et son frère. Et voilà que s'il veut s'installer en Canaan, son passé qu'il n'a jamais réglé lui revient en pleine face. Jacob est comme coincé, il est entre deux. Il est entre un proche passé avec Laban et il ne peut pas retourner en arrière. Mais devant lui, il y a son passé plus lointain qui est là. Et s'il veut s'installer en territoire de Canaan, il faut qu'il affronte ça. Il est vraiment coincé. Il ne peut pas rester non plus à cet endroit. C'est déterminant pour Jacob. Ésaü arrive à sa rencontre avec 400 hommes. Ésaü est déterminé. Jacob est effrayé, saisi d'angoisse. Est-il précisé? Jacob est là. Dans ces moments-là, on demeure seul. Plus personne ne peut rien pour nous. Dans ces moments-là, on est seul. Face à soi-même, face à sa vie, mais l'Éternel est là. Ce n'est pas la première fois que Jacob connaît une période d'entre-deux, de transition, déjà bien des années auparavant. Lorsqu'il avait fui Ésaü, il s'est retrouvé quelques jours dans une période de transition. Et là, à ce moment-là, Dieu va lui parler clairement au travers d'une vision, la vision de l'échelle de Jacob. C'est cette vision qu'on appelle communément l'échelle de Jacob. À chaque fois que Jacob est dans une phase de transition, Dieu lui met quelque chose dans son cœur d'une manière intense. Il y a eu la vision de l'échelle de Jacob, et là, dans cette phase de transition, Dieu va parler aussi encore à Jacob. Jacob demeure seul, mais il y a une promesse de Dieu pour sa vie, qui va concerner tout le peuple d'Israël. Et là, dans ce moment-là où il demeure seul, un homme va arriver. Il va lutter avec lui. Mais Jacob est déterminé et Jacob veut être béni par cet homme. Et suite à cette rencontre, il y a une promesse. Il va sortir de cette phase en boitant. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Il a fait une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Ces moments-là sont extrêmement importants pour notre vie, car ils déterminent le reste de ce que nous allons vivre. Et nous faisons des rencontres avec Dieu si importantes qu'ils restent gravées dans notre cœur à tout jamais, où nous apprenons que nous sommes que des hommes, que des femmes, et qu'il nous tient dans sa main. Alors nous ne voulons pas fuir ces instants-là. Jacob aurait pu installer ses tentes dans cet entre-deux-là. Je vais rester là, tranquille. On peut pas. Il faut à un moment donné régler ce qu'il y a à régler. Il faut affronter ce qui doit être affronté. Il faut faire face à ce qui doit être pris en considération et faire face aux événements qui sont là. La parole de Dieu nous dit « Soyez des hommes ». Et il nous faut faire face à tout cela, en comptant avec le Seigneur qui est avec nous. Ces moments de transition, ces moments d'entre-deux sont vraiment si intenses et si déterminants pour notre vie que nous ne voulons pas les brader. On doit vivre ce qu'on doit vivre. Si quelqu'un met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Les apôtres, les disciples vont vivre aussi une période de transition d'entre-deux, entre le moment de la résurrection de Jésus jusqu'à la Pentecôte. On pourrait même scinder ce moment de transition en deux, entre le moment de la résurrection et l'ascension et de l'ascension à Pentecôte. Et nous sommes dans cet entre-deux, d'ailleurs, en ce moment, que les disciples ont connu. Et là, c'est intéressant de vraiment noter tout ce qui s'est passé. On ne va pas le faire ce matin, juste peut-être un ou deux points, mais tout ce qui s'est passé dans cet entre-deux, entre la résurrection et Pentecôte, où les disciples vont apprendre à petit, à ne plus avoir la présence physique de Jésus. Il va apparaître, il va disparaître, et ce, jusqu'à l'ascension plusieurs fois. Chacun d'entre eux va régler certaines choses. On voit que ça va être un temps où l'apôtre Pierre va se repentir et être rétabli par le Seigneur Jésus. Jésus lui dira, lorsque tu seras revenu, dans Luc chapitre 22, verset 32, affermis tes frères. Parce que Pierre a besoin de revenir à Jésus, de se consacrer tout à nouveau. Lui qui s'est comporté comme un lâche, et qui a fui devant la menace. Un temps où Pierre va être restauré, rétabli par le Seigneur. Ces temps sont si déterminants qu'ils vont révéler ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. On pense peut-être être vraiment dans la foi, être un bon chrétien, mais en fin de compte, à ce moment-là, Dieu révèle, tu penses vraiment que tu es un bon chrétien, regarde. Pierre va se repentir amèrement, et va être restauré par le Seigneur. Alléluia. Si un temps où les apôtres et les disciples vont se réconcilier, car on sait quand même qu'il y avait certaines tensions entre eux. Mais quand on lit le début des Actes des apôtres, on voit qu'ils sont tous ensemble dans la prière. Un temps où le doute va être chassé, car malgré ces différentes apparitions, il est dit que quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, la conviction de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, elle ne s'est pas installée dans le cœur des uns et des autres d'une manière instantanée. Il dit que quelques-uns eurent des doutes. Mais au fur et à mesure, la conviction de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ va s'installer dans le cœur. On voit que cette période d'entre-deux est extrêmement importante, qu'elle était nécessaire avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas ce que les uns et les autres peuvent vivre dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale. Peut-être que quelques-uns, à leurs yeux, il semble qu'ils sont dans une phase d'entre-deux, dans une phase de transition, et que le Seigneur a prévu quelque chose pour eux dans peu de temps. Mais j'aimerais vous dire qu'il nous faut garder confiance en Dieu. Et pour revenir à notre texte d'introduction, si nous traversons les eaux, les fleuves, si nous traversons même le feu, le Seigneur est avec nous, il nous accompagne. Les fleuves ne nous submergeront point et le feu de l'épreuve ne nous brûlera point. Cela, vraiment, ce sont vraiment des moments intenses et nécessaires, je le répète, indispensables pour notre vie. Et nous ne voulons pas chercher à les éviter d'aucune manière. Mais nous voulons rester les yeux fixés sur Jésus. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, au travers d'un chant, il nous faut avancer. Je rappelle encore que dans le psaume 23, il nous est dit que l'Éternel est notre berger. Et quand nous marchons dans la vallée et l'ombre de la mort, c'est qui est avec nous ? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. On voit encore que ce psaume nous invite à la confiance, que ce psaume nous invite vraiment à placer notre foi en celui qui, même dans ces moments-là, dans la vallée, l'ombre, la mort, Jésus est avec nous. Jésus qui a connu aussi une phase entre deux, entre le moment où il a été baptisé et le moment où il a effectivement commencé son ministère, il y a une phase qui a duré 40 jours dans le désert, où il a été tenté par le diable dans le désert, qui a attendu que Jésus soit affaibli physiquement parce qu'il n'avait rien mangé ni bu depuis 40 jours. Et c'est à ce moment-là, quand Jésus est vraiment affaibli, que le diable l'attaque. Mais Jésus a gardé confiance en son Dieu et s'est appuyé sur la parole du Seigneur. Alors, ce sont des moments où il y a des décisions à prendre. Des moments où ces décisions à prendre sont difficiles à prendre. Parce qu'il y a des enjeux qui parfois nous dépassent nous-mêmes. Et nous savons qu'il y a des décisions à prendre. Jacob avait une décision à prendre par rapport à Ésaü, son frère. Il devait chercher la réconciliation avec Ésaü. Des décisions que nous connaissons, mais que parfois nous avons du mal à prendre, parce que nous savons quels sont les enjeux, et il y a des craintes. Mais prenons-les dans la foi, en sachant que le Seigneur nous garde. Nous voulons prendre la décision de l'honnêteté vis-à-vis de notre Seigneur et vis-à-vis des hommes, la décision de la foi. Nous voulons décider de marcher avec le Seigneur, quoi qu'il en soit. Une étape nouvelle commence pour notre vie, mais elle ne commencera qu'à partir du moment où nous aurons pris une bonne décision et que cela mettra un terme à cette phase de transition et d'entre-deux. Le Seigneur est celui qui sait les chemins par lesquels il nous fait passer, ces chemins qui sont si importants et si nécessaires à notre foi. Que le Seigneur vous fortifie les uns les autres. Puissiez regarder toujours au Seigneur Jésus. On va prier ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui règne. Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, ce que les uns et les autres vivent en ce moment. Toi, tu le sais. Mais je sais une chose aussi, Seigneur, c'est que tu es avec eux, que tu restes avec eux. Que tu es dans la barque, Seigneur, et que tu es tout-puissant pour calmer la tempête et pour nous faire arriver de l'autre bord. À toi soit toute la gloire, donc, pour ce que tu vas faire dans la vie des uns et des autres, pour la force intérieure que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous prenions les bonnes décisions. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.